Cette fois, je vous propose de le questionner, ce thème de la créativité partagée, à partir de l'expérience que parfois certains patients autistes appellent en nous des représentations artistiques et des émotions esthétiques, et ça devient une base de communication dans le transfert. Alors, il peut s'agir de patients qui sont particulièrement doués au plan graphique, gestuel, musical, et qui nous entraînent dans un partage esthétique, et puis d'autres fois, sans qu'il y ait de production particulière, la rencontre transférentielle s'accompagne d'une impression de créativité qui la nourrit, sans qu'on sache vraiment bien qui a commencé, du thérapeute ou du patient. Alors d'après Winnicott, la créativité c'est une coloration de notre rapport au monde qui nous donne le sentiment que ça vaut la peine d'y participer et aussi qu'on se sent un sujet à part entière dans ces moments-là. Et qu'est-ce que ce serait du coup une créativité partagée? Comme on disait ce matin, ce serait un moment de la cure où se co-construit une occasion de rencontre. Et aussi, je trouve que c'est un moment qui constitue souvent l'amorce d'un mouvement original d'élaboration. Ce mouvement, il se déploie dans le temps, du coup, et à partir de la rencontre entre deux créativités, celle du thérapeute et celle du patient. Ces créativités ne s'expriment pas de la même manière, mais elles entrent en résonance l'une avec l'autre. Alors, on pourrait dire que le besoin de répétitivité et d'immuabilité dans l'autisme peut donner l'impression que c'est finalement antinomique de la créativité. Mais en fait, cette clinique-là, sans doute, elle nous amène à envisager plusieurs registres de créativité. Dans sa forme simple, ça peut être une forme d'associativité intuitive et inconsciente entre des sensations qu'on compose ensemble dans la solitude. C'est notamment ce que Chantal Leroux-David s'appelle la pré-créativité. Dans d'autres cas, ça s'accompagne, ce travail-là s'accompagne de la conscience d'être en train de signifier quelque chose de soi qu'on peut éventuellement adresser à un autre. Et ce degré de conscience, il implique évidemment chez le sujet un cheminement interne que la rencontre transférentielle peut parfois aider, favoriser. Alors, est-ce que les positionnements contre-transférentiels sont spécifiques dans les moments de créativité partagée? En un sens, oui, un peu, au sens où chez le thérapeute se réveille une ouverture à l'insolite, à ce qui ne peut pas être anticipé. Et souvent, il me semble que cette ouverture à l'insolite correspond déjà à une forme de rebond créatif qui suit des moments où le thérapeute s'absente de la relation, en présence de l'enfant. Ces moments d'absence sont, à mon avis, incontournables dans la rencontre avec des patients chez lesquels la dispersion psychique prédomine. Et du coup, rencontrer le patient, ça amène à pouvoir se laisser traverser par cette dispersion psychique pour ensuite sentir comment la relation se compose de manière originale. Ce sont des moments assez complexes puisque du même coup, le thérapeute est mis en contact avec ses propres capacités archaïques de désinvestissement de l'objet. Ces capacités-là, on les pense autistiques ou pas, dans tous les cas, elles sont issues de notre vie de bébé, comme le rappelle Bernard Goltz. Du coup, traverser un vécu de discontinuité de son investissement du patient tout en étant en présence du patient, ça entraîne une tension interne chez le thérapeute. Et quand il parvient à garder en lui cette tension, c'est-à-dire quand il parvient à travailler avec sa propre destructivité psychique et à dialoguer avec des mécanismes de déliaison radicaux, du coup, à ce moment-là, il me semble qu'il adopte plus facilement un positionnement qui libère la créativité. Ce positionnement, il est fait d'un double mouvement. À la fois, il faut pouvoir supporter que le sens vienne un peu plus tard, différer la mise en sens, tout en gardant la capacité de continuer à faire des propositions. Comment on propose en thérapie? Je dirais, on propose, l'image qui m'est venue, c'est un peu comme à tâtons. Et si possible, surtout pas en désespoir de sens. En fait, quand la perception de soi et celle de l'autre sont très dispersées chez le patient, les propositions du thérapeute sont rarement des présentations d'objets, au sens de Winnicott, ce sont rarement des présentations d'objets qui se réfèrent à un objet total, ni même partiel, mais on va plutôt présenter un objet qui fait référence à certaines qualités de l'expérience corporelle ou relationnelle et qui paraissent importantes pour l'enfant. Donc les propositions du thérapeute peuvent parfois créer un assemblage un peu hétéroclite, mais qui va prendre sens au fil des manipulations de l'enfant. Alors je donne un exemple. une petite fille, Anna, qui utilise des petites figurines qui représentent des enfants, mais visiblement elle ne s'attache pas à leur aspect figuratif. Elle en prend un dans chaque main, et puis elle leur fait faire ce mouvement-là, d'aller-retour sur le bureau, et ça peut lui prendre tout le temps de la séance. Son attention me paraît absorbée dans les légers écarts de distance entre ces deux personnages. Et mes commentaires là-dessus ou mes imitations ont finalement assez peu d'effet. Du coup, je me rabats sur une boîte d'élastique que je laisse à sa portée. Je prends un peu à tâtons, donc je prends un élastique et je m'en sers pour mimer les variations d'écart entre ces deux personnages. Alors, Anna semble reconnaître tout de suite cet aspect de son geste stéréotypé. Du coup, elle se saisit de la boîte d'élastique, elle les sort, elle les étire, elle les rassemble en tas. Elle a l'air intéressée par le fait qu'ils ont l'air de bouger un peu tout seuls, quand ils sont mis en mouvement quand même. Et puis, elle les associe à ses figurines, c'est-à-dire qu'elle en enroule un autour du cou de chacune, ce qui, moi, m'évoque une écharpe. Et finalement, elle attache par les élastiques les petites figurines d'enfants au cou de grandes figurines d'adultes. Comme dans une embrassade rassurante où du coup l'émotion devient plus facilement partageable. Donc comme dans cet exemple, c'est souvent l'attention qu'on prête à la qualité dynamique de certaines recherches qui guide le thérapeute dans ses propositions. On passe du coup par une associativité très large en allant puiser à la fois dans les qualités sensorielles et dans les qualités signifiantes et dans les images. Ce sont les effets de résonance entre ces différents registres, hein, sensations, émotions, images, pensées, mots, qui nourrissent le partage créatif avec le patient, comme nous l'invite souvent à penser les travaux de Chantal Leroy-Davis. Proposer à tâtons, ça permet que le sens se construise et se découvre progressivement pour l'enfant. Ça laisse le temps à l'enfant de s'approprier ce sens-là. Ça implique aussi que le thérapeute reste parfois assez longtemps dans le brouillard. Alors, heureusement, pour traverser le brouillard, on a quelques points de repère, quelques appuis. J'en évoquerai deux. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le travail des impulsions qui traversent l'enfant et puis le thérapeute en écho. Si on prend les travaux de Winnicott, dans la créativité, faire par impulsion est beaucoup plus important que faire par réaction ou que faire par réflexe. L'impulsion, c'est un mouvement qui anime le sujet et qui est sous-tendu chez le sujet par le sentiment d'exister. Alors, ça peut être des mouvements très simples, comme le fait de respirer. C'est l'exemple de Winnicott. Il nous dit qu'on peut respirer de manière tout à fait créative si on a l'impulsion de le faire. Ça peut être aussi des mouvements qui ont un impact plus complexe sur le monde, évidemment. Alors, l'émergence de l'impulsion à partir du réflexe, c'est un élément qui est constitutif de la relation parent-bébé. Ça passe par l'illusion anticipatrice du parent qui va rêver comme une impulsion, ce qui, à l'origine, se présente peut-être comme un réflexe. Et avec un enfant autiste, c'est arrive que cette capacité d'illusion anticipatrice se perde, surtout si le thérapeute reste identifié au vécu de saturation qui semble traverser l'enfant, c'est-à-dire surtout s'il interprète la stéréotypie uniquement du côté de la décharge. Pourtant, même chez les enfants qui ont les stéréotypies les plus répétitives, il y a des variations d'engagement corporel dans le geste ou dans la vocalise. Ces variations d'impulsion font naître des images motrices qui ont entre autres un effet sur le corps du thérapeute. Elles le font parfois agir et parfois elles le font attendre pour voir ce qui va arriver. En analysant ce contre-transfert corporel, le thérapeute a des indices de la manière dont le patient est en relation avec l'objet à ce moment-là. Et ça aide aussi le thérapeute finalement à prêter des qualités d'animation à des manipulations d'objets inanimés. Ça l'aide aussi à imaginer les ressentis internes du patient qui seraient en écho de ses recherches de sensations dans le monde environnant. Le second repère, on l'a un tout petit peu évoqué, enfin, que je voulais citer, on l'a un tout petit peu évoqué ce matin, c'est la sensibilité aux émotions esthétiques. Alors je voudrais vous proposer cette idée-là que l'ouverture du thérapeute à l'émotion esthétique, ça détermine chez lui un cadre interne qui a une fonction déterminante pour accueillir ce qu'amène le patient. Qu'est-ce que ça provoque, l'émotion esthétique? Alors, on pourrait dire simplement que ça provoque un phénomène de saisie émotionnelle. J'ai allé regarder les travaux d'un cognitiviste qui s'appelle Mario Borio, qui rappelle que les émotions esthétiques ne sont pas nécessairement contextualisées. dans une situation avec une logique de cause, de causalité. Et en ce sens-là, c'est un peu différent des émotions de base, comme la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise, qui nécessitent un minimum de contexte pour être comprises. Les émotions esthétiques, elles n'impliquent pas de différenciation soi-objet qui serait trop importante, et elles n'impliquent pas non plus de scénario intentionnel. Du coup, elles permettent un partage émotionnel plus direct, très direct. Et j'ajouterais que dans un second temps, quand elles sont prises dans le transfert, ces émotions esthétiques permettent de symboliser quelque chose d'un peu particulier, qui est le passage entre l'imperméabilité et l'imperméabilité au monde, ou alors le passage entre la fermeture relationnelle et l'ouverture relationnelle. Pour dire ça, je m'appuie notamment sur les travaux de Pierre Aulagnier, qui nous rappelle que dans une émotion esthétique, je la cite, elle dit « Le sujet est mu par un mouvement qui le porte au-delà du monde sensible quotidien, qui le confronte à ce qu'il ne savait pas pouvoir se révéler être une forme, une qualité, une présentation possible de ce monde. » Fin de citation. Du coup, la personne qui est prise par une émotion esthétique se sent en connexion avec ce qui l'entoure, comme ça peut nous arriver à tous quand on est face à un paysage qui nous saisit, par exemple. Donc on se sent en connexion avec l'environnement et de manière inédite pour soi-même. Chez le thérapeute, cette ouverture aux émotions esthétiques permet d'engager dans la relation transférentielle sa capacité à symboliser les effets de résonance entre lui et le monde, sans a priori sur la forme que vont prendre ces effets de résonance. Du coup, ce cadre interne, ça l'aide à faire sentir à des patients très isolés combien les possibilités d'être en lien avec l'autre sont polymorphes, en fait. Et quand il se fait miroir du phénomène de saisie émotionnelle, par exemple quand il dit « c'est beau » et qu'il le pense, ça soutient chez le patient un accès à une forme de réflexivité où le patient peut mieux comprendre qu'il se sent touché par quelque chose d'extérieur à lui et à partir de quoi il s'identifie. Alors, après, on peut se dire comment on travaille à partir des émotions esthétiques. Melzer a évoqué la sensibilité des enfants autistes à l'émotion esthétique en proposant notamment l'hypothèse d'un conflit esthétique entre la sensorialité extérieure de l'objet qui serait fascinante, captivante pour le bébé, et son intériorité douteuse, puisqu'elle fait aller et venir l'objet, et que du coup, la beauté devient discontinue quand l'objet s'en va. Alors, la difficulté à traiter psychiquement la discontinuité dans l'autisme entraîne un risque d'écueil dépressif et pousserait le sujet à s'agripper à la beauté de la surface des choses. Il faut rajouter aussi que pour réduire l'intensité de ce qui est ressenti, le sujet s'agripperait inconsciemment à des émotions esthétiques parcellaires, par exemple la beauté d'une ondulation ou la beauté d'une lumière ou d'une couleur, la luminosité d'une couleur, sans que ces éléments s'associent pour constituer la représentation d'un visage, par exemple. Et ce sont du coup des émotions esthétiques qui sont très solitaires, faute de pouvoir les adresser à quelqu'un d'autre qui serait là, constitué dans la relation. Donc, très simplement, l'ouverture du thérapeute aux émotions esthétiques lui permet de rejoindre le patient dans cette recherche de portions de beauté, pour ensuite, avec ses propositions, recomposer un objet plus complexe dans le transfert. Il me semble que ça se fait souvent par déplacement et en attention conjointe sur un objet qui n'est ni soi ni le patient et qui permet de faire tiers dans la relation. Si c'est plus facile sans doute de composer un objet partageable à partir de l'émotion esthétique, c'est qu'il y a, une potentialité liante dans l'esthétique. Là, je m'appuie sur une phrase de Didier Houzel et Bianca Le Chevalier qui nous disent que la beauté, c'est une dynamique de liaison mouvante qui transforme l'émotion en ébauche de pensée. Ils prennent comme exemple le rêve. Ils disent la beauté d'un rêve, ça vient de la polysémie, de la multiplicité des sens qu'il peut prendre. Le rêve, ça peut être des fois un peu complexe dans sa construction, mais même si on prend une forme très simple, si on pense à quelque chose qui nous émeut esthétiquement de manière très simple, on pourrait dire que l'émotion esthétique est en fait constituée toujours d'un rapport entre au moins deux éléments. Le rapport des couleurs entre elles, un rapport des timbres entre eux en musique, ou un rapport des directions entre elles en architecture. Ce rapport, du coup, comme c'est un rapport, ça soutient le remantèlement sensoriel. ça peut donner une sensation d'unisson. Quand on pense par exemple aux peintures de Yves Klein, les bleus de Klein, c'est la luminosité et la couleur qui vont ensemble, ou l'étendue et la couleur qui vont ensemble, et qui donnent une sensation d'unisson. Ça peut aussi être un rapport de contraste, hein, comme dans la photographie, où il y a du figement et du mouvement qui sont mis ensemble. Je vais revenir là-dessus avec le cas clinique. Et finalement, c'est ce rapport entre deux choses qui crée une dynamique qu'on va accompagner ou avec laquelle on va rentrer en résonance. Et puis, je préciserai qu'à mon sens, pour relancer le travail de pensée, l'esthétique qui est le plus souvent convoquée dans la clinique de l'autisme, c'est celle du mouvement. Et les travaux de Stern, Daniel Stern, nous aident à penser combien c'est le style de vitalité dans l'interaction qui permet au bébé de connaître l'autre et de connaître les effets de la rencontre avec l'autre. Dans l'autisme, on connaît la difficulté d'intégration du mouvement. Et je pense que ça amène le thérapeute assez souvent à s'appuyer sur le partage esthétique des mouvements de rencontre pour aider le patient à se sentir, à se figurer et aussi à se penser en relation avec l'autre. Alors ça implique parfois de partager pendant longtemps l'aspect esthétique de mouvements répétitifs. Dans ces cas-là, c'est les petites variations qui nous guident en tant que thérapeute dans nos propositions. Mais je voulais parler d'un autre élément, c'est que les mouvements ne sont pas toujours répétitifs. Et parfois, quand l'enfant est saisi d'une impulsion, ces mouvements peuvent s'enchaîner de manière un peu énigmatique pour le thérapeute. Et je trouve intéressant de s'appuyer sur les travaux de Suzanne Langer, qui a inspiré Stern sur les accordages, et aussi Metzer sur la question du premier niveau de symbolisation, le niveau chant et danse. Et Suzanne Langer aide, je trouve, à penser une expressivité du corps qui ne serait pas juste un sous-titre de ce qui pourrait se dire verbalement. On n'est pas en train de bouger pour commenter ce qu'on dit avec les mots. Elle prend l'exemple de la danse contemporaine et elle dit qu'il peut y avoir un sentiment de cohérence du mouvement qui vient d'un rythme aléatoire, c'est-à-dire un rythme qui n'est pas régulier, qui n'est pas répétitif. Alors, l'intelligibilité n'est pas forcément immédiate, mais en fait, l'enchaînement des mouvements, des idées ou des motifs est finalement porteur d'une dynamique interne qui les fait aller ensemble. Même si on ne sait pas quelle histoire ça raconte. En tout cas, ça va ensemble. Et ce qui les fait ensemble, d'après Langer, c'est que ça détermine, tout cet enchaînement détermine une forme vivante. Alors, partager avec le patient la beauté d'une rythmicité aléatoire qui donne une impression de vivant, comme par exemple le mouvement des arbres dans le vent, c'est aussi aider le patient à donner une valeur expressive à ses mouvements et c'est aussi l'aider à lui faire sentir qu'il peut les adresser à l'autre. Je vais passer un petit peu à la clinique, du coup, en vous parlant de Nelly, qui m'a fait travailler ces questions des impulsions de l'enfant, de l'écoute avec le corps du thérapeute, de ses propositions aussi, et puis surtout de la question, elle m'a fait travailler la question de l'intégration du sentiment d'animation à partir d'un partage de la beauté du mouvement. Nelly, c'est une jeune fille maintenant que j'ai rencontrée quand elle avait 3 ans, elle en a 12, donc il y a 9 ans de psychothérapie. En parallèle, elle a été aussi accueillie en hôpital de jour. Donc la durée de la thérapie et la profusion du matériel pictural qu'elle amène m'a fait faire des choix. Voilà, je vous présente quelques extraits. Quand je rencontre Nelly, elle s'intéresse à des objets comme les poupons, par exemple, sans les toucher réellement, c'est-à-dire qu'elle fait des mouvements dans l'air au-dessus de leur tête. Sa mère m'avait dit qu'elle aimait les couleurs, et pour incarner ses gestes, je fais cette proposition un peu bizarre de peindre, si elle le souhaite, les objets qui l'intéressent. Donc Nelly utilise pendant de longs mois des pots de peinture, toujours dans le même ordre de couleurs, et elle utilise la peinture par paquet sur la tête du poupon. Elle mélange assez peu les couleurs et elle laisse presque jamais tomber une goutte par terre. Au bout de plusieurs mois comme ça, pour varier un peu, je lui propose la peinture à doigts qui est dans des pots assez grands pour qu'elle y mette sa main entière. Elle observe alors intensément les couleurs et elle immerge complètement, ses mains dans les pots. Et puis elle est tellement empressée à peindre que je lui fournis 2 grandes feuilles, c'est-à-dire du A3. Alors sur ces grandes feuilles, il n'y en a que 3 sur une période de 6 à 9 mois de ce travail-là. Elle étale la peinture, elle mélange les teintes sur la feuille qu'elle embrasse dans un grand mouvement ample avec ses deux mains, et puis après elle tapote, elle frotte, elle caresse avec délicatesse le papier imbibé, comme on caresse une peau, c'est l'évocation qui me vient. En peignant, elle tousse un petit peu, ou elle soupire de manière sonore, elle recouvre ses mains de peinture aussi, elle les frappe l'une contre l'autre, ce qui fait comme des postillons de couleurs. Et puis d'une semaine à l'autre, s'il n'y a que trois peintures sur 6 à 9 mois, c'est parce que en fait, elle remet de l'eau sur les peintures, elle réhumidifie et elle retravaille la couleur à partir d'une base déjà existante. Ce qui, moi, me fait penser à la manière dont la salive s'ajoute aux aliments pour devenir digeste. D'ailleurs, à cette époque-là, elle a beaucoup tendance à recouvrir de salive toutes les surfaces qu'elle, toutes les surfaces qu'elle touche. Finalement, l'ensemble de ces sensations m'évoque une tétée dont il lui serait possible de reconvoquer les traces au travers du médium. Et comme les postillons et les vagues de couleurs jaillissent vers le haut, vers le bas, vers le côté, latéralement, moi je récupère, je borde, je fais comme je peux, j'essuie, et je tiens dans la durée parce que c'est beau pour moi, ça, ce qu'elle fait, mais en fait j'ai aussi l'impression de ne pas faire grand-chose. En fait, en regardant après coup, mes mouvements de récupération de la peinture contribuent à animer tout l'espace autour de Nelly et recréer des sortes de boucles de retour, comme le dit Geneviève Hague, par l'intermédiaire du médium. Alors, après plusieurs mois de ce travail très répétitif, et malgré l'engouement de Nelly, ses impulsions à peindre, je fatigue un peu aussi, et je lui propose un petit peu à la cantonade de la dessiner. En réponse, elle fait immédiatement, elle passe sans transition du sens de ça au figuratif. Il n'y avait pas de figuratif avant. Je dis à la cantonade si on dessinait Nelly aujourd'hui. Voilà. C'est elle qui fait ce dessin-là, ça lui prend tout le temps de la séance. Elle le nommera comme ça, c'est son autoportrait, elle dit c'est Nelly ou c'est la petite fille. L'impression de mouvement là est rendue par la légère dissymétrie entre du personnage, on ne sait pas s'il avance ou s'il a du mal à avancer. L'impression d'animation est plus nette par la suite et Nelly figure des enjeux relationnels à partir de dessins de personnages et plus de traces de sensations uniquement. Donc là, elle s'intéresse à la figure du double, elle a à peu près 7 ans. Qui va, alors c'est au début une figure de double, mais ça va permettre une progressive différenciation puisque d'après elle, quand je lui demande, elle ne parle pas beaucoup mais elle répond un tout petit peu, quand je lui demande qu'est-ce que c'est, qui c'est, elle me dit c'est la petite fille et le petit garçon. Alors, l'élément sans doute distinguant, c'est le fait qu'il ait une braguette ou autre chose, en tout cas un attribut. Voilà, peut-être que pour pouvoir se représenter la différence, il faut d'abord passer par du presque même, comme on disait aussi ce matin. La différenciation des sexes et des générations se figure ensuite plus nettement par l'intermédiaire de grands portraits individuels. Alors Nelly, elle compose toujours comme de la même manière, c'est-à-dire un seul geste de manière sûre, sans hésitation, comme si elle se laissait guider par les teintes ou les formes, mais sans forcément avoir, je ne la vois pas construire un projet, et puis surtout quand elle rate, quand l'effet ne la satisfait pas, ce n'est pas du tout une atteinte narcissique. Elle ne dit pas c'est tout raté, elle barre et elle recommence à côté. Alors, de ces dessins-là, elle fait des sortes de figurations de filiation. Elle place la mamie au-dessous de la maman, qu'elle veut coller au mur. Elle veut coller les dessins au mur, comme s'il y avait un lien de filiation qui apparaissait. Alors, une fois qu'on est bien différencié, comment on est en relation, il y a une sorte d'événement qui arrive là dans les séances. C'est que, en fait, elle s'est mise de la peinture sur le visage et il se trouve que ce jour-là, cette période-là même, je la reçois dans un bureau qui n'est pas celui habituel, qui n'est pas le même que depuis 5 ans, suite à des problèmes de locaux. Il n'y a pas de miroir, donc elle ne peut pas se nettoyer et je sens la tension qui monte, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je lui propose un objet à moi, qui est ma tablette, avec une fonction miroir. Elle se regarde immédiatement, elle s'essuie, et puis elle a bien compris, juste après, elle actionne la fonction appareil photo. C'est le même bouton, c'est une fonction réversible, on connaît tout ça. Et elle utilise ça de manière intéressante, c'est-à-dire qu'elle se met à cadrer, elle fait des photos, et juste après, elle actionne la fonction miroir. Comme s'il fallait qu'elle vérifie que son visage était toujours là, même si elle avait lancé le regard et si elle avait pris une photo. Et alors, par la suite, elle fait tout un travail autour de la photo. Voilà, elle commence à prendre des figurines en photo. Ça lui prend beaucoup de temps parce qu'elle est très attentive au bon placement de tout le monde. On reconnaît des imitations de photos de mariage ou de baptême. Le rhinocéros d'arrière-plan, il a l'air d'être là un peu par hasard, mais des fois c'est un lion et puis des fois c'est sa thérapeute qui se retrouve à l'arrière-plan, donc c'est sans doute pas au hasard complètement. Elle photographie à cette époque en rafale parce qu'elle décolle pas le doigt de la touche, donc j'ai 50 photos de la même chose. Et pendant toutes ces séquences, moi je me déprime un petit peu parce que j'ai l'impression que l'émotion qui était si présente dans les couleurs, là, c'est un peu perdu. Mais en même temps, elle a, ça a l'air d'être si impérieux pour elle, ce travail-là, que j'arrive à la suivre, bon an, mal an. Et puis aussi, il y a quelque chose d'insolite pour moi, c'est le fait que, dans ma logique à moi, les photos de mariage de ce style-là ne sont pas celles qui sont les plus animées, qui ne sont pas les plus représentatives du moment, de l'ambiance de la soirée. C'est un petit peu ennuyeux. Et pour elle, je me rends compte que c'est tout à fait différent. Elle, ça, elle part de là pour créer une évocation d'une scène tout à fait vivante. Donc c'est l'arrêt sur image qui lui permet de développer ensuite. Et de fait, il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire que dans toutes ces photos-là, progressivement, elle va mettre un personnage en bord de cadre, et puis ensuite, petit à petit, elle va à chaque fois retirer un des personnages de la scène et prendre une photo du groupe restant, moins un personnage, jusqu'à arriver à un seul personnage qui reste. Donc comme si elle essayait de se représenter l'effet sur le groupe de la disparition des personnages. Alors, par ailleurs, je n'ai pas le temps pour l'anamnèse, elle a une famille disséminée pour des raisons politiques dans son pays d'origine. Il y a beaucoup de traumas, des choses qui peuvent faire écho. Donc, je pense qu'elle essaie de se représenter l'effet de la disparition sur le groupe qui reste, mais aussi l'effet de la permanence des personnages qui sont sortis du cadre et qui pourront revenir dans des compositions ultérieures comme celle-ci. Celle-ci qui va avec la suivante, qui est celle-là. C'est-à-dire que les deux sont faites ensemble au cours de la même séance. Hein. C'est comme si elle avait cherché à se représenter le moment exact où le lien de surface, de façade, se dissout pour laisser la place à un lien affecté, animé de l'intérieur et spontané. Et elle a fait cette saisie-là sur image. Ce qui me paraît intéressant, là, c'est que Nelly, elle fait un petit peu l'inverse de ce qu'on fait en photo, où on va prendre sur le vif quelque chose. Elle ne prend pas sur le vif, elle crée le vif pour ensuite pouvoir le saisir. Donc ça, je trouve ça assez intriguant. Elle a aussi par ailleurs besoin d'exercer un contrôle très fort sur son entourage dans sa vie quotidienne, on imagine, vu tout le temps qu'elle prend à pouvoir réanimer finalement les choses. Cette question, je pense que c'est assez perceptible qu'elle est passée d'une figuration du mouvement adhésif de surface à la figuration d'un lien qui est animé de l'intérieur, d'un mouvement qui va relier les êtres entre eux. Je vais juste finir par conclure par un échange récent. Nelly a 12 ans à l'heure actuelle et la puberté est arrivée, et avec des changements corporels importants qui remettent au premier plan dans ces séances la question du figement de manière défensive, je pense. C'est-à-dire qu'elle fait le grand calendrier, très beau, mais très 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 répétitif. Et puis du coup, un jour, j'ai pris une feuille pendant qu'elle faisait le calendrier et j'ai dessiné une jeune femme en fait, en mouvement, en m'inspirant du mouvement de sa main aussi qui elle-même était en train de dessiner. J'ai laissé inconsciemment la moitié droite de la feuille blanche. Et Nelly, elle l'a vue, elle s'en est saisie tout de suite, et à côté du personnage en mouvement que j'avais dessiné, elle a dessiné une petite fille aux yeux écarquillés, aux cheveux hirsutes, comme si elle était sidérée. Ce dessin-là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'elle a voulu l'emmener. Et quand je lui ai rappelé le cadre, que d'habitude je gardais pour elle les dessins qu'elle fait, elle a cherché à me répondre, ce qui est difficile pour elle, parce qu'elle n'a pas beaucoup de mots, et elle a fini par me dire dans un souffle « je tiens à la feuille ». Je la lui ai donc laissée, avec en tête le double sens de tenir à, qui signifie à la fois chérir et s'appuyer. Cette formulation m'a fait penser que maintenant, elle peut prendre conscience de la valeur de tous ces mouvements créateurs que nous avons partagés et qui l'aident, elle prend conscience que ça l'aide à se sentir exister. Voilà. Merci pour votre attention.